va demander à nos quatre orateurs de venir, please Marek, if you join us on the stage, pour pouvoir discuter ensemble de ces affrontements tout à fait riches et passionnants. J'ai remarqué qu'en plus, donc, dans les enfants hyperactifs, non seulement vous les aidez sur les devoirs, mais en plus vous leur apprenez l'anglais, parce que toutes les consignes sont en anglais. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voudrais peut-être juste commencer, Olivier, parce que tu as fait la dernière présentation sur dans l'intelligence artificielle, on voit bien la performance que cela va pouvoir apporter. Il n'y a à peu près aucun doute que ça va prendre une place de l'activité de soignant, de diagnostic, de suivi des patients. Comment tu vois en fait l'impact dans les 10 ans, ce que ça va avoir sur notre métier de psychiatre ?
Alors bon, c'est une vraie question parce que il y a beaucoup de gens qui font des prédictions sur les 10, 20 ou 30 ans qui viennent par rapport à l'impact que pourrait avoir l'intelligence artificielle. Et puis tous les 2 ou 3 ans, on est obligé de revoir un peu la manière dont on prévoit les choses. Alors moi, j'ai quand même le sentiment que l'intelligence artificielle, c'est extrêmement bien pour faire des prédictions d'évolution, extrêmement bien pour faire des diagnostics. Et encore, en psychiatrie, on voit que ça a quand même un certain nombre de limites. Mais pour les prises en charge, ça ne peut être qu'un surplus. Il y a une expérience intéressante qui a été faite avec les schizophrénies, qui s'appelle Focus, chez nos collègues israéliens, où ils ont vraiment bien développé leur système de prise en charge avec des applications pour les schizophrènes. Ils se sont aperçus qu'en fait, tout seul, ça ne marchait pas, mais qu'avec tout un système de soins, ça fonctionnait bien. Donc moi, l'impression que j'ai, c'est qu'au fond, la partie la plus expertale qu'on a, la partie la plus technique qu'on a, va probablement considérablement se modifier, peut-être devenir moins importante. Moi, j'ai coutume de dire, je suis très spécialiste des maladies rares, tout ça. Toute cette partie-là, l'intelligence artificielle va me remplacer très vite. Mais par contre, toute la partie accompagnement, toute la partie soins un peu au quotidien, même si elle sera aidée par ces dispositifs, nécessitera des gens. Et donc, moi, je pense que ça paraît un peu contre-intuitif aujourd'hui, mais je pense que c'est presque l'avenir des psychologues dans cette affaire, en fait. On aura énormément besoin de psychologues pour accompagner et peut-être un peu moins besoin de psychiatres très spécialisés, sauf ceux qui seront spécialisés en IA.
En oubliant pas qu'en France, on a une des densités de psychiatres les plus élevées en Europe et il y a de certaines chances que nous ayons un peu moins besoin de psychiatres, mais pour une activité peut-être plus intéressante et plus valorisante dans le travail de soins. Mary, I would like to ask you a question also because your presentation was definitely fantastic. And we were really impressed by the fact that you had a 40-person staff, so it's a huge number of clinicians being involved. Yes, don't use your helmet anymore. And so my question was, how did you recruit those staff? I mean, was there a lot of candidates for that? And also, do they have specifically and only this type of activity, or do they also have an activity, for example, for outpatients?
Staff at my center?
Yes.
Well, yes, they have been recruited. We started out with four employees, and then gradually expanding in order to carry out the tasks that we have as a centre. But of course, we also apply for external funding for our projects, and this has also helped increasing the number of staff, but they are full-time employed in my center.
Yeah. And no frustration that they do not see patients. I mean, of course, they have them on screen, but it's a bit different kind of relationship,
yeah,
isn't it?
It is a different kind of relationship. It is.
And they like it.
But I mean, the experiences that they can, that they, the patient and therapist, they develop the same therapeutic relationship as they do in face-to-face therapy. But of course, there are differences. You cannot sense the patient in the same way as you can when you sit face to face. It is a different relationship, but it works.
Donc pas de problème de recrutement et notamment pas de difficulté non plus pour une activité en vertu. Donc clairement une voie. Allez, on va revenir maintenant sur nos approches sociologiques qui ont été tout à fait intéressantes. Je trouve que d'ailleurs ces développements autour des apps avec les patients qui permet de réinjecter l'approche sociologique. La manière de communiquer, de comprendre, d'intégrer, c'est un vrai plus dans ces approches. Et je voudrais savoir comment on peut se sentir un sociologue dans cette organisation des soins entre les patients et les médecins. Peut-être Xavier, peut-être plus pour toi.
Ou peut-être Déborah, parce que c'est pour les... Non. Bon. En vérité, là, ce que j'ai présenté, c'est plutôt sur la base d'une réflexion épistémologique, hein, puisque c'est plus un raisonnement sur les catégories en fait, qui sont utilisées pour organiser la pratique. Mais le fait est que, alors là j'en ai pas du tout parlé, mais il y a une relation, comment dire, il y a une intrication très très forte qu'on pourrait dire socio-épistémique entre les catégories d'entendement qu'on utilise, les méthodologies qu'on emploie pour évaluer l'efficacité des traitements, les institutions de référence qu'on met en place pour garantir la bonne marge de tout ça, le dispositif formatif des praticiens et l'éducation des patients, etc. Tout ça finit par former un gigantesque système qui a une homéostasie qu'on pourrait dire extrêmement visqueuse finalement et qui est assez péjoratif pour l'évolutivité du système. C'est ce qui fait que finalement, alors certes, la médecine est innovante, certes, la psychiatrie est innovante, mais quand même, on a beaucoup de démarches thérapeutiques qui ont 50 ans d'âge et qui sont finalement modifiées progressivement à la marge pour des bonnes raisons, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de vérification de l'efficacité. Mais les méthodologies qu'on emploie nous contraignent finalement à n'avoir que des interventions simples et des catégories assez grossières, entre guillemets. Et c'est légitime, parce qu'on n'avait pas avant les outils d'intervention ou d'observation pour être plus fin, pour être plus précis, pour être plus temps réel. Aujourd'hui, on l'est. Donc, finalement, ce qui va être réorganisé, c'est l'ensemble du dispositif socio-technique, c'est-à-dire de l'évaluation d'efficacité au manuel de nosographie, aux échelles de sévérité, en passant par les méthodes de calcul de taille d'effet. Et il y a tout un tas de choses complètement à inventer dans ce domaine-là, vraiment.
C'est tout à fait intéressant, parce que la notion de bassin tracteur, notamment dans cette organisation de symptômes, elle vient essentiellement des réseaux neuronaux à la base, hein, comme quoi la neurobiologie et la sociologie se rapprochent. On a le temps pour deux, trois questions, je vous en prie, ici.
Oui.
On a tranquillement 1 minute 45, donc vous prenez votre temps.
J'y vais. Bon. Juste une crainte que l'on... Alors, tout le monde regarde là-bas, donc je ne sais pas, je vais laisser passer monsieur.
Allez-y, madame. Oui, c'est bon.
C'est bon. Corinne Williams-Sosler, directeur du Centre hospitalier spécialisé de Vendée. Je voudrais revenir sur l'usage notamment de la télépsychiatrie et peut-être évoquer quelques réalités de terrain. L'administratif que je suis, puisque nous avons été classés ainsi tout à l'heure, doit constater que par rapport à l'usage de la télépsychiatrie, bon, il y a les initiés. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui aujourd'hui nous font profiter de leur savoir et leur expertise dans la matière, y compris sur le plan international, madame. J'ajoute ensuite qu'en parlant souvent avec des collègues et des médecins psychiatres, il y en a encore beaucoup qui n'utilisent absolument pas, je dirais pas tous les outils numériques, mais en tous les cas, pas de recours à la télépsychiatrie. Et puis il y a ceux qui font partie des territoires que je représente et que les Nantais connaissent bien. Puisque vous savez que la moyenne des psychiatres en France, c'est 23 pour 100 000 habitants, et que je fais partie de territoires où ils ne sont pas plus de 7 pour 100 000 habitants. Donc, dans ces circonstances-là, c'est bien la démographie médicale sinistrée qui fait venir à la télémédecine. C'est un constat de terrain, hein. Ce n'est pas un choix scientifique je dirais, intime, c'est une nécessité, et je sais que nous ne sommes pas le seul territoire dans cette situation. Donc je souhaitais souligner ce point-là. Dire aussi qu'en ce qui nous concerne sur la Vendée, télépsychiatrie, cela se fait largement auprès des prisons, du médico-social, des urgences, etc., mais toujours avec un accompagnement soignant, jamais dans un colloque singulier, comme il a été présenté, notamment par vous, madame, entre un patient et un professionnel psychiatre. Ces deux commentaires me conduisent à deux questions très brèves. À quand, effectivement, des recommandations un petit peu nationales, homogénéisées, car je constate, à commencer par mon établissement, mais pas uniquement, sur le territoire vendéen, devrais-je dire, plus que notre établissement, où on est conduit, où les psychiatres, en lien avec d'autres partenaires, sont conduits à légiférer pour se dire dans quelles circonstances il est pertinent, opportun, de faire appel à la téléconsultation. Je ne parle pas de la télé-expertise, bien sûr, qui est plus facile. Donc, à quand des recommandations nationales ou régionales? On parlait tout à l'heure d'algorithmes autour de l'autisme. Il y a un centre régional d'appui sur l'autisme qui ne se situe pas à Nantes, mais à Angers. Donc, à quel moment, effectivement, on peut partager ces savoirs et ces réflexions? Première question. Puis alors, deuxième question, parce que je vois que ce n'est pas du tout un problème générationnel, c'est qu'effectivement, les jeunes psychiatres n'ont pas forcément plus d'appétence, toujours par rapport à la télépsychiatrie, hein, puisque c'est l'objet de mon appel. ce n'est pas une question de génération, c'est vraiment une question d'approche personnelle et intimiste par rapport à son exercice. Et donc là encore, je m'interroge à quand l'université introduit des modules numériques et santé mentale, en particulier en France. Et donc là encore, j'entends avec intérêt ce qui peut se faire au niveau international.
Merci. Merci pour la question. Enfin, pour les deux questions, les modules commencent. Hein. On commence à avoir des formations maintenant sur les formations pour les entretiens médicaux. Je pense que les générations récentes sont un peu plus à l'aise et donc peut-être un peu plus ouvertes aussi, on espère. Mais clairement, souvent, hein, c'est l'ignorance qui est un des freins majeurs. On a l'impression qu'on perd le contact avec les patients, alors que, comme on l'a vu, bien au contraire, on facilite des soins. Moi, j'ai beaucoup de patients en situation internationale, donc quand ils sont à Pétochenok, on ne peut plus les voir. Donc là, la télémédecine, ça n'arrive.
Maybe the question was especially as, do you have any kind of national recommendation for those kind of video visits?
We don't have national recommendations yet. We've made them in our own region, and we are very keen on sharing these clinical practice guidelines for using video with all of Denmark. Our National Board of Health has issued a so to speak a guidance saying that you can use that you are allowed to use video consultations as a psychiatrist, but that's only concerning the health regulatory authority or responsibility, that it's the oath as a doctor is still respected when you do a video consultation. So we are not there yet, but we try to keep a close dialogue with the national authorities, health authorities, in order to have them also promoting the use of technologies in mental health.
Merci. Je pense qu'il nous faut maintenant un tout petit peu de temps pour digérer toute cette intelligence artificielle. Et je vous propose donc 13 minutes de pause en demandant d'être là. Non, s'il vous plaît. À 17h15, s'il vous plaît. On aura le temps de discuter pendant le café. Merci.